South Beach avait absolument tout pour plaire. Le soleil, la plage, les soirées, même l'équipe de basket est plutôt pas mal. Le patron est un papy super stylé et la superstar prépare même le café. L'équipe est bien en place et le coach est un génie. Tout. Il y avait tout, je vous dis. Pourtant, malgré ça, Donovan Mitchell n'a pas atterri à Miami mais bien à Cleveland. Ah là, c'est clair, on n'est pas sur la même ambiance climatique et festive. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour parler du Miami Heat. Je commence par vous demander de nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément à nous développer et à vous proposer toujours plus de podcasts de qualité. Alors pour parler soleil, pour parler plage, je vous ai ramené les garçons les plus lumineux qui soient. Benjamin Moubèche et Oscar Dormois sont dans le Carton. Comment ça va messieurs?
Mais écoute, ça va très bien, passe une lumineuse journée, en l'occurrence.
Une lumineuse journée, il se reconnaîtra s'il écoute ce podcast, et ben moi ça va super les gars, je suis très ravi de vous retrouver. On embraye tout de suite sur le Heat qui va commencer l'année prochaine, une saison avec, pareil, comme toujours depuis quelques années, de grandes ambitions. Vous avez l'habitude maintenant, on le fait un peu avec toutes les équipes pour commencer le podcast. Benjamin, je me tourne vers toi, résume-nous l'intersaison du Heat.
Alors pour faire simple et dans les grandes lignes, au-delà des petits contrats de training camp, etc., donc le Heat a drafté Nikola Jovic en pick 27, donc rookie intéressant. Ils ont re-signé Victor Oladipo sur un contrat plutôt intéressant, Caleb Martin également, Dewayne Dedmon. Ils ont évidemment ramené Udonis Haslem qui est là sûrement pour toujours au Heat. Et de l'autre côté, ils ont perdu quelques joueurs, c'est-à-dire Markieff Morris qui part à Brooklyn, PJ Tucker qui part à Philadelphie, et ensuite le reste c'est sincèrement du détail.
Tu l'as dit, ils ont perdu PJ Tucker. Oscar, je vais me tourner vers toi. Ils perdent PJ Tucker sans réelle compensation, sans trouver de joueur avec le profil similaire. On sait que PJ Tucker était importantissime dans la rotation du 8 l'année dernière, c'est un défenseur d'élite encore à 37 ans, qui vraiment est capable de tenir des mecs en duel, en défense, c'est impressionnant. Cette perte de PJ Tucker a fait mal pour le Heat quand même.
Ah, c'est la grosse perte du Heat, il n'y a pas autre chose à dire. Comme tu l'as dit, il était excellent en défense, mais aussi en tant que facilitateur en attaque. Ça apporte aussi de l'expérience. Un mec de 37 ans qui a connu autant de fois les playoffs, qui a joué avec plein de grands joueurs, avec Harden... à Houston ou alors aux Bucks avec Giannis, bagué en plus avec Giannis, donc c'est une énorme perte. Le joueur qui a, comme je viens de le dire, 37 ans, cherchait à avoir un contrat à long terme pour finir tranquillement sa carrière. Le Heat ne pouvait pas se permettre de lui offrir le contrat que les Sixers ont posé sur la table. Il a décliné l'option de 7,4 millions du Heat pour signer une bagatelle de 30 millions sur 3 ans, un beau chiffre quand on sait qu'il va toucher 10 millions à 40 ans. Tout le monde n'a pas ça pour sa retraite. Ça va être une énorme perte. Il va apporter beaucoup, je pense, aux Sixers. Le Heat est orphelin de leur poste 3-4 et sans remplaçant. Personne pour prendre sa place. Donc on se demande qui va prendre... cette placement camp dans le 5 majeur, Duncan Robinson, responsabiliser Nikola Jovic, j'en sais rien, ou alors tester un small ball avec du Gabe Vincent ou du Max Truss.
Ouais, c'est clair que PJ Tucker, c'est surtout qu'en plus, c'était peut-être le joueur qui fit le plus avec la hit culture. C'est ce défenseur, ce chien de garde hargneux avec un hustle incroyable qui dynamise une équipe, qui lâche jamais rien et qui met vraiment du rythme et de la hargne sur un terrain. Clairement, ça fait très très mal, je trouve, pour le Heat. Benjamin, je me tourne vers toi. C'est un peu le dossier qui est encore dans la marmite, qui est encore en train de mijoter. C'est pas tout à fait réglé du côté du Heat. C'est la prolongation de contrat de Tyler Hero. Alors, Tyler Hero, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et puis surtout, combien on lui donne?
Clairement, Tyler Hero, c'est une grande question. J'en profite juste. C'est Jimmy Butler qui symbolise le mieux les valeurs du Heat. Mais effectivement, Tyler Hero, c'est vraiment un des rouages essentiels de la machine du Heat, celle qui a été vraiment merveilleuse la saison dernière, notamment en saison régulière. C'est le sixième homme de l'année, pour commencer. Voilà, donc rien que ça pose des bases.
Je trouve de dire quand même.
Il a que 22 ans. C'est un joueur à 20 points, enfin 20,7 même, 5 rebonds et 4 passes par match, à 39,9% à 3 points. Donc clairement, c'est un apport considérable en sortie de banc. C'est, donc je l'ai dit, c'est un jeune joueur extrêmement talentueux. Il a joué un rôle primordial dans le parcours du 8 jusqu'en finale NBA l'année précédente. C'est un potentiel offensif qui est assez fou. Et apparemment, le 8 le valorise beaucoup parce que je rappelle quand même qu'en 2020, quand il y a eu la question de James Harden au Heat, ils ont refusé d'inclure Tyler Herro dans le package pour James Harden. Est-ce qu'ils ont eu raison? Est-ce qu'ils ont eu tort? Pour avoir raison, déjà, il faudra le prolonger, c'est compliqué. Apparemment, lui demande le max. Le front office pense plutôt à lui donner un salaire de l'ordre des 25 millions de dollars. Donc clairement, on est sur une question de négociation, ça va être compliqué. Donc l'intersaison 2023 va être vraiment cruciale pour cette question. S'il perd Tyler Herro, c'est une perte majeure, encore une fois. Et par contre, s'il fait une bonne saison, il n'y a pas de raison de ne pas lui donner un contrat à la hauteur de sa production. La question, c'est quelle sera sa production. Le max, c'est compliqué parce que c'est un joueur qui a des lacunes en défense. Par contre, quand on achète Tyler Herro, on achète un potentiel. Donc, c'est très compliqué. C'est une question vraiment très compliquée de savoir combien il vaut, combien il mérite. Le max, encore une fois, je pense que c'est peut-être trop. Et compliqué dans un univers dans lequel Jimmy Butler gagne près de 49 millions par saison, Bam Adebayo et Kyle Lowry autour de 30, Duncan Robinson autour de 20 millions par an. C'est difficile de trouver de l'espace. Donc, grosse question, gros challenge pour le front office. Mais par contre, Tyler Herro doit rester si le Heat veut rester un contender parce que c'est un joueur tellement important pour eux.
Clairement, Tyler Herro doit rester. Et tu l'as dit, c'est un des joueurs majeurs et les plus importants de cet effectif du 8. Là, le front office du 8 va devoir s'arracher les cheveux pour trouver une solution pour garder ce jeune joueur de talent. Oscar, je me tourne vers toi. Il y a eu des gros dossiers. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour du Heat cet été. Des rumeurs avec Kevin Durant qui va finalement rester du côté des Nets. Mais aussi des rumeurs avec Donovan Mitchell. Donovan Mitchell était longtemps pressenti pour faire son arrivée à Miami. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le projet de Donovan Mitchell à Miami a un peu capoté?
On peut peut-être penser à la contrepartie qu'a dû dépenser les Cavs pour récupérer les talents de Donovan Mitchell, qui ont été quand même énormes. De nombreux picks, du rookie, du Colin Sexton, du Lauri Markkanen, qui sortent... Alors, Colin Sexton était blessé, mais d'une saison avant qui était très bonne dans les stats. Lauri Markkanen qui sort d'un euro... Gotesque, disons-le. Donc, ils ont dû envoyer beaucoup. Le Heat n'avait pas les armes hein, pour rivaliser. Il est passé sous le nez. Kevin Durant est aussi passé sous le nez du Heat. Ça fait deux gros stars qui n'ont pas pu venir. On sait qu'il y a eu des problèmes avec la designated de player rule de Bam Adebayo qui pose des problèmes de ne pas pouvoir être trade. Donc, qui peut être trade? Est-ce que Tyler Herro a pu être discuté dans des rumeurs de transfert, peut-être à cause de sa demande d'argent et de l'envoyer contre Donovan Mitchell. Le Heat a été piégé, je pense, par le fait qu'ils n'avaient pas assez d'argent à dépenser pour garder tous les joueurs qu'il fallait pour continuer dans cette l'optique de l'année dernière. Et en même temps, pas assez de joueurs aussi à trader, je pense, avec une valeur assez grande et assez importante. Alors, Eric Spoelstra est très bon pour tirer le meilleur de ses joueurs. Mais la valeur derrière, on adore Deadmon, on adore Yurt Seven, on adore Max Strauss, mais qu'est-ce que ça vaut sur le marché des transferts pour après chercher des gros stars?
Clairement, Benjamin, j'imagine que tu es plutôt de cet avis. Donovan Mitchell à Miami, c'était sexy sur le papier, mais ça semblait vraiment trop compliqué.
Ah, c'est ça, clairement, Miami déjà a montré une volonté d'aller chercher une star pendant l'été, n'a pas réussi, donc c'est un échec du front office, on peut le dire clairement. Mais Oscar a très bien invoqué les raisons, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les armes. Ils ont apparemment essayé de former des packages autour de Tyler Herro et Duncan Robinson, mais c'était compliqué pour des questions de salaire, pour des questions de tour de draft surtout, parce que c'est vraiment ça. Quand on regarde ce que le Jazz a fait cet été, c'est d'équipes en reconstruction, très modernes comme le Thunder. Ce qu'ils veulent, c'est être l'équipe qui a le plus de tours de draft de la Ligue. Et le Heat n'avait pas du tout suffisamment de tours de draft pour prétendre à récupérer Mitchell ni Kevin Durant. Et sachant que dans le cas de Kevin Durant, ils voulaient en plus un All-Star, c'était strictement impossible. Alors, ils ont passé une partie de l'été à chercher des picks pour monter une meilleure offre. Mais encore une fois, ils n'ont pas réussi. Ou alors, les contreparties les intéressaient sans doute... ils n'étaient peut-être pas prêts à sacrifier ce qu'il fallait pour récupérer ses picks, et c'est peut-être pour le mieux finalement, parce que le Heat effectivement c'est une équipe qui n'a peut-être jamais eu besoin de stars sur les dernières années pour briller. Bon, certes les derniers titres ont été ont été gagnés dans un contexte de starification extrême, mais depuis quelques saisons, le Heat, c'est une identité collective. Donc, je ne pense pas que ce soit une condition nécessaire pour eux d'avoir une star pour réussir. Par contre, clairement, ils ont montré la volonté d'en récupérer une. Ils ont échoué parce que pas assez de tours de draft. Et ça, ça peut poser problème la saison prochaine si le front office n'a pas confiance en son effectif et si le front office avait vraiment l'intention de se débarrasser de Tyler Herro et de Duncan Robinson, qui sort quand même d'une saison vraiment compliquée.
C'est clair.
Je pense aussi que le Heat ne voulait pas s'handicaper à long terme. Mmh. On le voit avec les contrats qu'il ne veut pas donner. Pat Riley, il sait ce qu'il fait. Il tient la franchise d'une main de fer. Pour PJ Tucker, il a dit non. Pas 3 ans, 30 millions. Pour Tyler Herro, ils ne veulent pas lui filer le chèque énorme qu'il veut pour ne pas non plus être handicapé en termes des finances. Et je pense que pareil pour les tours de draft, ils ne veulent pas se retrouver comme les Nets en ce moment, qui sont à court de pick de draft, ou les Lakers, et continuer d'avoir quand même une main mise sur l'avenir et être dans le contrôle.
Bah, du coup, on va parler un peu d'avenir à très court terme, évidemment. Benjamin, je reviens vers toi. Qu'est-ce qu'on peut clairement attendre du 8 la saison prochaine?
C'est vraiment une équipe qui est surprenante. Quand ils sont allés en finale NBA dans la bulle, on ne s'attendait jamais à ça. Quand ils ont défié toutes les équipes qu'ils ont défiées en play-off ces dernières années, ils nous ont tout le temps surpris. Jimmy Butler est un joueur surprenant. Donc, c'est compliqué de définir le plancher du 8. Par contre, le plafond, je pense que c'est clairement les finales NBA, parce qu'ils ont montré que même s'ils n'ont pas de Kevin Durant ou de Donovan Mitchell, même s'ils ont perdu PJ Tucker cette saison et que ça leur fait mal, c'est un projet qui est vraiment fonctionnel et aussi, on le rappelle, qui fonctionne avec des jeunes joueurs. Alors certes, il y a aussi des vieux, on va dire Kyle Lowry par exemple, qui pourrait peut-être être moins performant la saison prochaine, mais qu'il a été vraiment cette saison, et les blessures n'ont pas aidé en play-off, donc on peut espérer des play-offs sans blessures, mais surtout on peut espérer donc un Tyler Herro qui progresse, et si on a éventuellement une vraie progression de la part des joueurs, des jeunes, si on a un Nikola Jovic qui est au-dessus des attentes, peut-être que le Heat peut espérer vraiment aller chercher des finales, et peut-être, qui sait, hein, être un vrai contender.
Oscar, t'es plutôt de cet avis de l'avis de Benjamin, pardon. Ils ont peut-être pas fait l'intersaison la plus sexy qui soit, mais ils restent quand même, ils sont là, quoi. Ils sont contenders, Benjamin l'a dit.
Moi, je serais peut-être un petit peu moins optimiste que vous. Dans le contexte du Heat qui s'affaiblit et qui a des grosses pertes, à côté de ça, les équipes de l'Est sont devenues quand même hyper sérieuses. Les Cavs, du coup, qui ont récupéré le fameux Donovan Mitchell, qui sont attendus dans le top 6, on pourrait dire. Les Sixers, qui vont avoir un James Harden sur une saison complète, un Tyrese Maxey qui est encore en train de montrer son talent, PJ Tucker qui vient les renforcer, ramener de l'expérience. Les Bucks qui vont continuer à rouler sur tout le monde comme depuis plusieurs années. Je pense que ça va être difficile. Alors, ils ont toujours Eric Spoelstra, ils ont toujours les cadres en les personnes de Bam Adebayo et surtout Jimmy Butler, le grand chef. Je pense que ça va être difficile. À la trade deadline, on a déjà vu là, pendant l'intersaison qu'ils étaient très actifs pour aller chercher un peu partout. L'intersaison, je pense que à la trade deadline, ça va être important de regarder le Heat et voir ce qu'ils peuvent faire pour aller chercher des pièces et continuer jusqu'en playoff et voir où ils peuvent aller, ouais.
Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir que vous n'avez pas forcément le même avis et pas le même optimisme face au Heat l'année prochaine. Bon, en tout cas, on va suivre ça avec attention. Vous le savez, vous avez l'habitude avec l'analyste. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce Heat. Est-ce que vous avez été déçu de l'intersaison? Puis qu'est-ce que vous en attendez l'année prochaine? Est-ce que vous les voyez clairement être très, très dangereux en playoff? Et pourquoi pas rêver de finale NBA? On se fera plaisir de vous répondre. James, fire, ball game! Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Spotify et Apple Podcasts, ça nous aide énormément à nous développer. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à aller regarder le précédent qui était dédié au parcours de l'équipe de France à l'Euro et à l'avenir de Vincent Collet à la tête de la sélection. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.